Chers amis des cellules paroissiales d'évangélisation, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour considérer et méditer le quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Le texte se trouve, par exemple, dans Matthieu 17, c'est le texte que j'ai sous les yeux, mais on peut lire aussi la transfiguration dans Marc 9, 2 ou dans Luc 9, 28. Parmi les mystères lumineux, on pourrait dire que celui-ci est le mystère super lumineux, puisque sur le visage de Jésus, les témoins et nous, à travers eux, nous contemplons la lumière divine. Sur le visage humain de Jésus apparaît une lumière divine. Cela nous dit beaucoup de la personne du Verbe de Dieu parmi nous. Ce mystère nous permet de mieux saisir ce que nous disons ou chantons parfois au moment de la profession de foi pendant la messe dominicale. Lumière née de la lumière. Lumen de lumine. Donc c'est un rappel de ce que Jésus est profondément depuis toujours, depuis toute éternité. Il n'est pas devenu lumière à la transfiguration. La transfiguration, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte, si on veut, sur ce qu'est Jésus, le Christ, le Verbe de Dieu, le Logos, depuis toute éternité. Je suis la lumière du monde. Ce mystère super lumineux se déroule en présence de deux témoins. Selon la loi du Deutéronome, le témoignage d'une seule personne n'était pas reçu validement. Il fallait un minimum de deux témoins pour authentifier un événement, un acte, peut-être même un méfait aussi. Donc ici, nous sommes en présence de ces deux témoins, personnages d'importance, qui sont déjà au ciel, puisque ce sont des personnages de l'histoire d'Israël, Moïse et Élie. L'un symbolisant la loi, la Torah, et l'autre, le courant prophétique. Les deux, Moïse et Élie, ont entendu Dieu au Sinaï leur parler, se manifester à eux sous des formes différentes, mais c'est toujours le même Dieu Yahvé. Et ils étaient, on peut dire, tous les deux et dans les événements de leur vie, comme des préfigurations du Messie. Et ici, comme dans tout l'Évangile, les préfigurations cèdent le pas à l'accomplissement dans ce que l'on peut appeler le buisson ardent du Nouveau Testament. La transfiguration est appelée comme ça, c'est très beau. Cela nous permet de comprendre qu'il y a dans cet événement une révélation, ou plutôt un épisode de la révélation qui nous est manifesté. Le buisson ardent du Nouveau Testament, c'est la transfiguration. Dans le premier buisson ardent, le premier face à Moïse, ou plutôt Moïse face au buisson ardent, Dieu avait révélé son nom, « Je suis celui qui est ». Ici, sur la montagne de la Transfiguration, c'est la voix de Dieu que l'on entend encore et qui désigne Jésus comme fils aimé du Père. « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Tout comme au baptême, ce sont les mêmes paroles. En lui, je me suis complu, en lui, j'ai mis mes complaisances, en lui, je me suis plu. Écoutez-le. Donc Jésus apparaît comme la plénitude de la révélation, le Fils de Dieu. Et on entend cette voix qui nous montre ce que le Père a de plus cher, son Fils. Donc on peut dire que la plénitude de la révélation est accomplie définitivement. Et c'est à partir de cette révélation que tous les actes, toute la pensée de l'Église, toute la théologie de l'Église va pouvoir se développer. Non pas apporter des choses nouvelles, mais découvrir sans cesse des accès nouveaux de ce mystère de la révélation. La nuée lumineuse, c'est le signe de la présence divine. Cette nuée lumineuse, elle avait toute sa place dans le temple de Jérusalem. jusqu'en 587 avant Jésus-Christ, au moment où le temple de Salomon est détruit. La nuée lumineuse disparaît. Cette nuée recouvre, en hébreu, ce terme était employé pour désigner les ailes des chérubins. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Eh bien, dans le temple, l'arche d'alliance était recouverte par les ailes protectrices des chérubins. C'est le mot qui est employé d'une façon tout à fait exceptionnelle pour désigner ces ailes qui protégeaient l'arche d'alliance. Il est repris donc ici pour montrer que la lumière de Dieu recouvre toute la scène de la transfiguration. Comme l'arche de l'Alliance était recouverte des ailes des anges, pour nous montrer que la présence de Dieu est là. Jésus est donc visible à la fois comme étant parfaitement homme et parfaitement Dieu. Les Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples, assistent à cette scène, ils voient le passage de ce visage qui leur était familier, ce visage humain qu'ils connaissaient bien, qu'ils aimaient bien, en un visage totalement différent, totalement nouveau. Ils distinguent la divinité sur l'humanité de Jésus. La méditation de ce quatrième mystère lumineux a pour objet de nous faire passer d'un plan humain à un plan surnaturel. On pourrait dire que la transfiguration nous permet de voir Jésus tel qu'il est, en profondeur. Pierre, Jacques et Jean, par leur présence sur la montagne, par leur réaction, celle de Pierre surtout, nous invitent à cela. Nous voulons voir le Christ tel qu'il est. L'importance du verbe « écouter ». En lui, j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, en lui je me suis plu, écoutez-le. C'est un verbe employé par Dieu, le Père, qui nous renvoie à l'alliance avec Moïse au Sinaï et au premier commandement de la loi. Écoute Israël, c'est-à-dire obéis à Dieu. C'est le commandement de l'adoration. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Toute la loi, toutes les prophéties aboutissent au Christ en tant que perfection et nouvelle source de vie. Obéir, c'est donc s'approcher de cette source pour y boire largement, pour s'y désaltérer quotidiennement. Obéir, c'est s'approcher de Jésus pour apprendre sans cesse de lui, comme un élève, comme un disciple. Obéir, c'est vivre de Jésus, du Christ, à travers l'humilité du quotidien, afin de pouvoir entrer, quand il le voudra, dans sa lumière.